Bonjour à tous. Donc en effet, lorsque j'ai proposé, en fait, il y a un an et demi, cette communication au comité scientifique, je venais tout juste d'entamer ma recherche création en danse sous la direction de Philippe Guisgan à Lille. Et à ce moment-là, ma recherche elle avait plutôt pris la forme de ce qu'on appellerait une practice-based research, une recherche qui se fonde à partir de la pratique. Et là, en l'occurrence, comme il a été dit, à partir de la création du solo Le Vrai Lieu, que j'ai chorégraphié et interprété. Et à l'époque, il s'agissait pour moi de définir le lieu physique d'émergence du geste, que je désignais alors sous l'expression de lieu intérieur. Et donc cette communication, telle que je l'avais proposée, c'était pour moi l'occasion de proposer une hypothèse de méthodologie de la recherche que je concevais à l'époque selon un modèle scientifique assez linéaire, avec le solo comme point d'ancrage de la recherche, la thèse comme un mouvement d'élucidation et la création d'un trio comme la mise en forme expressive d'une résolution. Et en fait, assez vite, ce cadre méthodologique il m'est apparu assez limité, et c'est ce qui m'a poussé à le reconfigurer et par là même à infléchir ma problématique. Et donc finalement, la communication que je vous propose aujourd'hui, elle va revenir sur cette évolution, les causes et les conséquences qu'elles ont produites, et surtout aussi toutes les interrogations qu'elles continuent de susciter. Donc pour revenir un petit peu en arrière, à l'époque de la création du solo Le Vrai Lieu, c'est une création qui avait été vraiment initiée par un questionnement qui avait ouvert mon mémoire de recherche en littérature comparée. Sans entrer dans tous les détails, ce mémoire portait sur deux romans, Le Premier Homme d'Albert Camus et La Mort d'un Père, qui est un roman relativement contemporain d'un Norvégien. C'est deux romans qui ne partageaient ni le même contexte historique et géographique, ni le même socle culturel et social. Mais disons qu'au-delà de similitudes génériques et thématiques, puisqu'ils parlent tous deux de l'absence du père, de la recherche d'identité à travers l'écriture, l'intérêt de ces textes, il m'avait paru résider vraiment dans le mouvement d'écriture qu'ils avaient précédé. C'est-à-dire que je n'avais pas perçu ces textes comme des formes figées, mais comme la trace laissée par les langues qui les avaient fait naître, à savoir l'effort de deux écrivains pour retrouver le lieu de leur vérité. Et donc évidemment, cette conception-là de l'écriture littéraire, hein, saisie dans son mouvement et non pas dans sa forme figée, a forcément trouvé une résonance avec ma pratique de danseuse et de chorégraphe. Et je me suis posé la question suivante, qui a donc initié la création, c'était: le geste peut-il, au même titre que l'écriture, retrouver, reconquérir son vrai lieu? Donc pour tenter de répondre à cette question, dans le studio, j'ai commencé vraiment à rebours, hein, à l'autre bout de la ligne, en fragmentant mon corps, en m'efforçant de le déraciner d'un socle imaginaire. Et ce travail de création, il m'a permis de faire la découverte qui fonde aujourd'hui mon projet de recherche-création. En fait, en me concentrant sur les possibilités de fragmentation et de reconstruction du corps par la danse, il m'a semblé découvrir une part irréductible de mon corps, un lieu à la fois familier et mystérieux, d'où jaillissait une danse qui s'est imposée à moi beaucoup plus que je ne l'ai suscitée. Et c'est donc cette hypothèse qui a formé, cette découverte qui a fondé l'hypothèse de départ de ma recherche, à savoir le geste surgit de l'espace que je déploie à l'intérieur de moi. Donc là, je vous partage quelques images de cette création du solo, Le Vrai Lieu. Il y a une scénographie, hein, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que tout à l'heure, je vous montrerai un court extrait de ce solo, une scénographie et des costumes que j'ai fait avec Guillaume Bouisset, qui est un artiste plasticien. Cette hypothèse donc, de départ, elle a été étayée par la lecture d'articles, d'ouvrages qui tous, dans leur analyse des phénomènes déterminant la formation du geste, évoquent une sorte de lieu germinal. Pour en citer quelques-uns, dans sa thèse sur le désœuvrement chorégraphique, le philosophe Frédéric Pouillaud, il parle d'un noyau eidétique qui agrégerait les expériences du danseur. Dans l'ouvrage collectif Approche philosophique du geste dansé, Catherine Kinsler évoque, elle, un lieu transcendantal auquel il faudrait remonter pour que se constitue le geste dansé. Elle fait écho au vide que Laurence Loupe définit comme le lieu par lequel il faudrait passer sans cesse pour se réinventer ou réinventer un corps. Et Jacques Gaillard, dans le même ouvrage, il parle d'un acte d'évidement à partir duquel peut se déplier l'activité sensorielle et à travers elle l'expressivité du corps. Alors, ces lectures, elles ont évidemment conforté mon intuition, mon hypothèse de départ, mais elles m'ont d'autant plus interrogée sur la nature de ce vide, de ce lieu transcendantal, de ce noyau. Je me suis demandé finalement comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on y accède, est-ce que sa création induit un type de gestuelle. Mais surtout, je me suis demandé, en fond, si c'est tout à fait compréhensible que des danseurs éprouvent cet endroit, ce lieu, comment expliquer que un public extérieur puisse percevoir ce vide-là. Donc, telle que je la concevais à l'époque, cette recherche-création, elle s'appuie sur les principes de la practice-based research, une recherche à partir de la pratique. Elle se fondait sur la découverte née de la création d'un solo et elle visait à l'explicité. Il s'agissait alors de théoriser un processus de création du mouvement, théoriser au sens où l'entend le philosophe Pierre-Damien Huyghe, c'est-à-dire créer une scène d'observation de ma pratique. Et dans ce cadre précis de recherche-création, je cherchais donc à consolider mon hypothèse par une double production théorique et discursive d'une part, artistique et pratique d'autre part, avec la création d'un trio. Et donc ce trio, qui s'appelle aujourd'hui Dans le creux de l'absence, tel que je le projetais alors, il avait valeur de preuve, de confirmation, et non pas véritablement de pierre de touche. Hein. Il s'inscrivait juste comme la dernière couche qu'on apporterait à une recherche qui, d'une certaine manière, aurait pu s'en dispenser. Et donc la création du trio, elle m'a semblé assez rapidement presque non nécessaire, en tout cas un peu superficielle, et ça m'interrogeait sur la nécessité pour moi, en tout cas, de mener précisément une recherche-création et non pas une simple recherche qui se serait appuyée sur une expérience de danse. Et donc, pour que ma recherche devienne opérante, il me fallait finalement et rendre le trait qui réunit la notion de recherche et création opérant, il me fallait définir ce que recouvrent ces deux termes de recherche et de création et le cadre dans lequel ils s'inscrivent. Et évidemment, à travers ces définitions, se posait la question du lien que je construis entre théorie et pratique. Comme il a été dit, j'ai été formée au conservatoire, donc je suis interprète. Et je dirais que cette formation relativement rigoureuse et ensuite mes expériences d'interprète, elles m'ont vraiment habituée à dissocier dans le temps l'acte sensible, puis ensuite sa compréhension. Je dirais que jusqu'à il y a très longtemps, et encore parfois maintenant, j'ai l'habitude de me dire que les expériences qui s'accumulent dans mon corps dansant, elles resteraient au fond intérieur et inintelligibles si je n'étais pas capable d'en extraire ensuite une signification. Et cette difficulté à nous dans le temps, ces deux opérations, elle est pour moi aussi liée à une forme de valorisation du mystère et de l'opacité du corps dansant. Et là, si j'ai initié cette recherche-création, c'est parce que pour la première fois, avec la création du solo Le Vrai Lieu, je me suis vraiment retrouvée en but à cette dissociation que je présumais donc entre l'acte sensible et son intellection. C'est-à-dire que l'opacité de mon corps à la compréhension du geste qu'il produisait s'opposait très puissamment à la clarté sensible avec laquelle ce même geste cheminait dans mon corps. Et je me suis demandé si, au fond, cette tension n'était pas au cœur de ma recherche. Je me suis demandé si, finalement, ce lieu vers lequel je tendais n'était pas le lieu de résolution de cette tension, à savoir celui par lequel je donne sens à ce qui produit mon mouvement, et sens à ce qui se produit. Donc, avec cette recherche-création, j'ai cherché vraiment à unir dans le temps ces deux moments de la conscience, l'acte sensible et son intellection, acte que juste à présent je percevais de manière consécutive. J'ai donc cherché dans la littérature des outils pour construire ce rapport. Et l'un de mes appuis a été le philosophe Basile Doganis, qui, dans sa thèse « Pensée du corps », à travers laquelle il interroge la philosophie par le prisme des arts gestuels japonais, rappelle que la plupart des démarches philosophiques qui appréhendent le corps, qu'il s'agisse de l'empirisme ou des expériences phénoménologiques, elles relèguent tout ce qui a trait au corps au statut d'objet, tandis que la pensée réflexive, elle endosserait, elle, le rôle de sujet. Et donc, sa suggestion pour résorber cette distinction qu'il attribue à la philosophie occidentale du concept, ce serait d'abandonner une posture en surplomb au profit d'un geste qu'il qualifie à la fois de corporel et d'intellectuel, qui serait l'immersion. Et cette posture, qui permet d'alterner entre une perception du corps comme objet puis du corps comme sujet, elle ouvre selon lui l'espace au déploiement d'une pensée à la fois abstraite et incarnée. Et selon lui, c'est par cette substitution du rapport temporel par le rapport spatial que peuvent être travaillés les contraires, c'est-à-dire non plus dans la succession des figures, mais dans un lieu tel, comme l'écrit Alain Badiou dans la préface, dans un lieu tel qu'elles y puissent coexister, toutes ces figures. Cette double perception donc, du corps comme objet et du corps comme sujet, elle est redevable, en tout cas elle s'inscrit dans la lignée de la thèse que défend le sinologue Jean-François Binter, et qui permet de résorber aussi cette distinction corps-esprit en envisageant une entité psychophysique dans son intégralité. En fait, en prenant l'exemple du corps qui s'immobilise pour trouver une idée ou pour retrouver un mot, il défend l'idée que le corps est activité. Il écrit « il est toute l'activité non consciente qui porte mon activité consciente ». Et donc, dans cette mesure, la conscience n'est que cette part de notre activité qui se perçoit elle-même. C'est dans Un paradigme, dans son essai Un paradigme, qu'il écrit ça. Donc, ainsi considéré, la conscience n'est pas une entité à part, ce n'est pas une espèce de sphère éclairée qui surplomberait le corps, c'est au fond l'instance réflexive et cependant corporelle qui permet de créer l'écart, qui autorise la théorie. Donc, la théorie, toujours au sens où l'entend Pierre Damien Huyck, c'est-à-dire regarder une scène sur laquelle on n'est pas soi-même. Toutes ces considérations, elles m'ont permis de concevoir l'écart entre pratique et théorie en termes de spatialité et non plus de temporalité. Et c'est ainsi que j'ai pu me dégager du modèle scientifique linéaire, du solo comme hypothèse, de la thèse comme grande élucidation et de la création du trio comme démonstration. En pensant le passage entre le solo et la création du trio non plus comme une succession de figures, mais comme un écart, un espace entre, ma problématique, elle a été infléchie. Et cet infléchissement, il a fait évoluer la recherche d'une forme de practice-based, donc recherche à partir d'eux, vers celle d'une practice-led research, une recherche menée par la pratique. Donc j'explique ça un peu plus clairement. C'est-à-dire qu'à travers la question de l'écart entre l'expérience du solo et la création du trio, se posait là pour moi la question du geste qui crée, du geste créateur et du geste créé. La première forme que j'avais entreprise, elle n'évacuait pas la question du geste créé, mais elle se concentrait vraiment sur ce qui présidait à la formation du geste et elle ne problématisait pas véritablement le rapport entre les deux. Et là, l'inflexion que je donne à ma recherche création va permettre précisément de problématiser le rapport entre geste qui crée et geste créé. La création du trio, dans le creux de l'absence, va mettre en pratique les outils d'écriture développés à partir du solo pour questionner leur capacité à la fois de produire du mouvement et leur capacité de définir un certain type de mouvement. Donc cette forme de recherche-création, elle se trouve finalement guidée par l'évolution progressive d'une création qui n'arrête pas d'interroger les liens entre poétique et esthétique. Donc ainsi reconfigurée, la création du trio est vraiment devenue le point névralgique de ma recherche. Elle est vraiment pour moi devenue le lieu vibrant du dialogue entre le mouvement généré et perçu et la somme des gestes qui la fait naître. Elle est devenue le lieu explicite du faire, au sens du poiène grec auquel Valéry remonte dans sa leçon inaugurale en 1937 pour définir la poétique. Je cite certaines des choses qu'il a écrites. Selon lui, les arts sont des actes. Il écrit que chacun des arts contient une partie des actes générateurs. Et c'est l'exécution du poème qui est le poème. C'est aussi en un sens ce que dit Paul Klee dans la théorie de l'art moderne. Il dit que le cheminement détermine le caractère de l'œuvre. L'œuvre d'art, écrit-il, naît du mouvement, elle est mouvement fixé. Les deux théoriciens mettent vraiment ici l'accent sur ce qui produit l'œuvre et soutenant l'idée que la forme conserve la gestuelle qui la fait naître. Là, ce qui me semble intéressant avec la création du trio de danse, donc, réside dans la possibilité de questionner de manière extrêmement tangible les liens entre les actes générateurs, justement, et la forme produite, et de répondre un peu aux questions. Les actes générateurs sont-ils subordonnés à une forme prédéfinie, même un peu inconsciemment? Bien est-ce que la forme est le résultat inévitable d'un certain type d'acte générateur qui serait bien défini? Et dans le cas précis de ma recherche, est-ce que la création d'un espace intérieur comme acte générateur produit une forme définie de mouvement ou bien est-ce que la visualisation de cette forme de mouvement précède et oriente la création de cet espace intérieur? Donc ça, ce sont les questions que je me suis posées à l'issue de cette reconfiguration du cadre méthodologique et qui ont vraiment orienté les premiers temps passés en studio avec la création dans le creux de l'absence, dont je vous partage quelques photos. Et sans répondre directement à ces questions, la première semaine de résidence avec des interprètes, qui, à cause du Covid, n'a pu avoir lieu qu'en juillet dernier, a ouvert de nouvelles pistes qui m'ont permis de reconfigurer même la notion de lieu intérieur. En fait, en guidant les interprètes à travers plusieurs improvisations, j'ai réalisé que je ne parlais jamais de lieu intérieur au sens d'un espace délimité à l'intérieur de soi, mais de la conscience d'un espace à la fois intérieur et extérieur qui supporte le corps en même temps qu'il est généré par lui. En fait, je demandais aux interprètes de ne jamais perdre cette conscience et d'être le plus précise possible sur les variations d'intensité de cet espace qu'elles déplaçaient en même temps qu'il les déplaçait. Et rapidement, cette conscience m'est apparue comme une sorte de prérequis pour que le mouvement dansé naisse. Parce qu'en effet, lorsque ce n'est plus la visualisation d'une forme qui précède le geste, mais la conscience de l'espace qu'il porte et qui le porte, le mouvement peut naître, selon moi, libéré d'une fonction et d'une forme prédéfinie. Et c'est à mon sens, c'est l'idée que je défends, que peut naître le mouvement dansé. En échangeant avec les interprètes à la fin de chaque improvisation et en comparant leurs sensations avec les miennes, on est parvenu progressivement à définir les conditions d'émergence du mouvement. La conscience de l'espace précède la forme, elle fonctionne comme un prérequis. Cette conscience de l'espace qui porte et qui est portée rend le corps poreux, et cette porosité permet au mouvement dans ses d'émerger. À partir de là, on a tenté de comprendre ce qui permettait au mouvement de circuler, de vivre entre les interprètes. J'ai continué de les guider par une nouvelle contrainte. Cette fois, il s'agissait de saisir les mouvements qu'elles percevaient chez les autres et de s'en dessaisir aussi rapidement qu'elles les avaient saisis. Et cette contrainte les a placées dans un état de tension. Mais surtout, elle m'a permis d'oublier qu'il s'agissait de trois danseuses et elle m'a permis de donner à voir une circulation perpétuelle et autogénératrice du mouvement. Je suis allée un petit peu loin là, dans la description de ces improvisations, mais tout ça pour dire que ce jeu permanent de saisie et dessaisie m'a permis j'ai pu le définir comme la condition d'existence du mouvement. C'est-à-dire que c'est dans ce jeu, dans cet espace de tension que ce jeu crée, dans l'instabilité qu'il installe, dans le vide auquel se risquent les danseuses, que le mouvement vit. Voilà, c'était juste pour dire jusqu'où j'étais arrivée grâce aux questions qui avaient été d'abord soulevées à travers ces improvisations. Tout ça pour dire que la recherche, elle s'inscrit dans ce mouvement perpétuel qu'aucune hiérarchie ne fige. Les découvertes que j'ai faites à l'issue de cette première semaine ont ouvert de nouvelles pistes qui ont déterminé de nouvelles questions, lesquelles ont suscité de nouvelles recherches et de nouvelles improvisations. Et ce mouvement de recherche, il oriente autant la marche à suivre qu'il éclaire d'une lumière nouvelle le chemin déjà emprunté. Et tout ça pour dire que c'est de cette manière-là aussi que la conscience que j'avais de ma danse dans le vrai lieu a changé. Lorsque j'en avais entamé la création fin 2018, j'avançais un peu aveuglément. Mon moteur d'écriture, c'était d'accéder à une sensation de déracinement. Donc j'avais imaginé un fil reliant mes paumes à mes genoux, vous allez peut-être le voir tout à l'heure dans l'extrait. À cette première contrainte, j'avais ajouté celle d'une extrême lenteur, d'un déplacement par glissement. Et je me suis retrouvée dans un état de tension qui n'a pas permis d'être dans l'état de déracinement que je recherchais peut-être, mais qui en tout cas a permis de faire la découverte qui a fondé ma recherche. Comme je ne voulais pas quitter la forme dans laquelle je m'étais contrainte, je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir un espace à l'intérieur de moi. Et donc, la danse est née de cet espace. Et donc cette découverte que la danse naît de cet espace, elle a initié un mouvement de recherche par habitude à emprunter une voie théorique. Mais cette voie était trop étroite et elle m'éloignait progressivement de la conscience physique de mon solo. J'ai fini par l'abandonner, cette voie, au profit d'un cheminement multidirectionnel. Puisqu'avec la création d'un trio, je crée une danse, en même temps que j'élucide son mode d'apparition et en même temps que je réactualise la perception que j'ai du solo qui a initié cette recherche-création. En effet, chaque nouvelle représentation est actualisée par l'éclairage que jette le travail de création du trio. La conscience que je développe aujourd'hui d'un corps poreux qui supporte l'espace en même temps qu'il est porté par lui, ainsi que l'idée d'une saisie et dessaisie perpétuelle du mouvement, me permettent à chaque représentation de redonner naissance à des gestes que la forme chorégraphique a pourtant fixés. Je conclue donc, en respectant le temps j'espère, en disant que donc, ma recherche-création n'est pas l'application d'une théorie dans le champ de la pratique, ni non plus l'analyse théorique d'une pratique. Elle est le chemin d'une pratique qui vise à expliciter des phénomènes qui ne l'étaient pas, mais lesquels sont tous issus d'un corps qui danse et qui pense en même temps. S'il ne s'agit pas de dire que la théorie est inopérante, il me semble que la distinction qui l'oppose à la pratique, elle l'est ici. Comme l'écrit Deleuze, la théorie n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts, et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. Ici, ma pratique de la création chorégraphique est une composante à la fois du processus et des résultats de la recherche. Donc, il n'y a pas de séparation fondamentale entre théorie et pratique.